Chapitre 15. Les pierres témoins. L'art, dans sa forme la plus élémentaire, jette un pont mental entre deux personnes. On peut l'employer de nombreuses façons. Au combat, par exemple, un chef peut relayer des renseignements simples et donner des ordres directement à ses officiers subalternes, pour peu que ces derniers aient été formés à les recevoir. Quand l'art est supérieurement développé, on peut l'utiliser à influencer les autres, même s'ils ne sont pas exercés, ou l'esprit de ses ennemis, en leur inspirant peur, confusion ou doute. Rares sont les hommes doués à ce point. Mais celui qui possède l'art, à un degré hors du commun, peut aspirer à communiquer sans intermédiaire avec les anciens, qui ne sont inférieurs qu'aux dieux eux-mêmes. Bien peu s'y sont risqués, et, de cela, un nombre plus restreint encore a obtenu ce qu'il cherchait. Car il est dit que, si l'on peut interroger les anciens, il n'est pas sûr que leur réponse concerne la question posée, mais qu'elle porte plutôt sur celle qu'on aurait dû poser. Et un homme risque de ne pas survivre à l'audition de cette réponse. Car c'est lorsqu'on parle aux anciens que le bien-être ressenti à l'usage de l'art est le plus fort et le plus périlleux. Tel est l'écueil dont doit toujours se garder tout pratiquant, fort ou faible. En utilisant l'art, il perçoit la vie avec une acuité nouvelle. Il ressent une telle élévation de l'être qu'il peut même en oublier de respirer. C'est une attirance irrésistible, même dans les pratiques les plus courantes de l'art, et assujettissante pour qui n'est pas animé d'une volonté inébranlable. Quant à la communication avec les anciens, elle procure une exaltation d'une intensité à nulle autre pareille. L'homme qui parle à un ancien risque l'annihilation totale de ses sens et de sa raison, et il mourra délirant. Il est vrai, cependant, qu'il mourra délirant de bonheur. Le fou avait raison. Je n'avais aucune idée du danger que j'affrontais, et je continuais obstinément à m'y précipiter tête baissée. Je n'ai pas le courage de décrire les semaines qui suivirent. Qu'il suffise de dire que, chaque jour qui passait, Galen affermissait son emprise sur nous et se montrait plus cruel et plus manipulateur. Quelques élèves disparurent rapidement des rangs. Joyeuse en faisait partie. Elle cessa de venir après le quatrième jour. La seule fois où je la revis, elle rasait les murs de la forteresse, avec un air à la fois inconsolable et honteux. J'appris par la suite que, du moment où elle s'était désistée, Sereine et les autres filles lui avaient tourné le dos. Et quand, après cela, elle parlait d'elle, on n'avait pas l'impression qu'elle avait échoué à un examen, mais plutôt qu'elle avait commis un acte abject et répugnant pour lequel il n'était pas de pardon. Elle finit par quitter Castelserre. J'ignore où elle s'en fut, mais elle ne revint jamais. De même que l'océan trie les cailloux du sable et les dépose en strates sur la marque de marée d'une plage, Galen, à force de caresses et de brutalité, séparait ses étudiants. Au début, chacun de nous s'efforçait de donner le meilleur de lui-même, bien que nous ne ressentions ni affection ni admiration pour lui. Pour ma part, en tout cas, au fond de mon cœur, je n'avais que haine à son égard. Mais c'était une haine si violente qu'elle avait généré en moi la résolution de ne pas me laisser briser par un homme comme lui. Après des jours et des jours d'insultes, lui arracher un seul mot favorable était comme recevoir un torrent d'éloges d'un autre maître. Constamment rabaissé, j'aurais dû finir par me montrer insensible à ses sarcasmes, mais non. J'en arrivais à me convaincre qu'il avait en grande partie raison, et je m'efforçais stupidement de changer. La rivalité faisait rage entre nous pour obtenir son attention, et des favoris se dégagèrent graduellement. Auguste en était, et Galen nous exhortait souvent à prendre exemple sur lui. Moi, j'étais sans conteste le plus méprisé. ce qui ne m'empêchait pas de brûler de me distinguer à ses yeux. Après la première fois, je ne fus plus jamais le dernier arrivé sur la tour, et je ne bronchais jamais sous ses coups. Sereine non plus, qui partageait avec moi la distinction de son mépris. Et même, après le violent cravachage qu'elle avait subi, elle devint une sectatrice servile de Galen, et ne prononça plus jamais la moindre critique à son encontre, alors qu'il se répandait sans cesse sur elle en sermons, réprimandes et injures. Il la battait bien davantage que les autres filles, mais cela ne faisait que la conforter dans sa détermination de supporter ses avanies, et, après Galen, c'était elle qui se montrait la plus intolérante envers ceux qui perdaient courage ou mettaient notre apprentissage en question. L'hiver s'intensifia. Il faisait froid au sommet de la tour, et sombre, hormis la vague clarté qui montait de l'escalier. Nous étions dans un lieu à l'écart du monde, et Galen en était le dieu. Il forgea notre groupe en un bloc monolithique. Nous nous prenions pour une élite, des êtres supérieurs, privilégiés d'avoir accès à l'art. Même moi, l'objet de tant de moqueries et de coups, j'en étais convaincu. Et nous méprisions ceux d'entre nous qu'il parvenait à briser. Durant cette période, nous restâmes entre nous et n'entendîmes que Galen. Imbre me manqua bien au début et je me demandais ce que faisaient Burick et Dame Patience. Mais les mois passant, ces questions secondaires perdirent leur intérêt. Même le fou et Martel devinrent presque pour moi source d'irritation, tant m'obsédait la volonté d'obtenir l'approbation de Galen. Le fou allait et venait sans mot dire. Il y avait cependant des moments, lorsque j'étais le plus endolori et le plus épuisé, où le museau de Martel contre ma joue était mon seul réconfort, et d'autres où j'avais honte du peu de temps que je lui accordais. Au bout de 3 mois de froid et de brimade, notre groupe se trouva réduit à 8 candidats. Alors commença le véritable apprentissage, et Galen nous rendit une petite mesure de confort et de dignité. Nous vîmes dans ce geste non seulement un luxe inouï, mais un sujet de reconnaissance envers lui. Quelques fruits secs au repas, la permission de porter des chaussures, l'autorisation d'échanger 1 ou 2 mots à table, c'était tout, mais nous en ressentîmes une gratitude abjecte. Cependant, les vrais changements étaient encore à venir. Tout remonte à ma mémoire, limpide comme le cristal, et je me rappelle la première fois où Galen me toucha avec l'art. Nous étions sur la tour, encore plus écartés les uns des autres maintenant que le groupe s'était clairsemé. Ils s'arrêtaient devant chacun de nous un moment pendant que les autres attendaient dans un silence respectueux.
Préparez votre esprit au contact. Ouvrez-vous à lui, mais ne vous laissez pas aller au plaisir qu'il procure. Le but de l'art n'est pas le plaisir.
Ils passaient de l'un à l'autre sans suivre d'ordre particulier. Espacés comme nous l'étions, nous ne voyons pas le visage de nos voisins. Et Galen n'aimait pas que nous le suivions des yeux. Aussi, nous n'entendions que ses paroles brèves et sèches, puis le hoquet de celui qu'il touchait. Devant Sereine, il lâcha d'un ton dégoûté. « J'ai dit de s'ouvrir, pas de reculer comme un chien battu !» Et enfin il se présenta devant moi. Je l'écoutais parler, et comme il nous l'avait recommandé, m'efforçais d'effacer mes perceptions sensorielles pour ne m'ouvrir qu'à lui. Je sentis son esprit effleurer le mien, comme un vague picotement sur mon front. Je demeurai ferme, et le contact devint plus fort, se mua en chaleur, en lumière. Je refusais de m'y laisser entraîner. Galen se trouvait désormais dans mon esprit et m'observait avec sévérité. En me servant des techniques de concentration qu'il nous avait apprises, imaginez un seau en bois du blanc le plus pur et déversez-vous dedans. Je réussis à garder pied devant lui, en attente, conscient du lien créé par l'art, mais sans m'y abandonner. Par 3 fois, la chaleur me traversa, et par 3 fois, j'y résistais. Puis Galen se retira. À contre-cœur, il m'adressa un hochement de tête approbateur. Pourtant, dans ses yeux je vis, non de la louange, mais une trace de peur. Ce premier contact fut comme l'étincelle qui enflamme enfin l'amadou. J'avais compris le processus. J'étais pour le moment incapable de le mettre en pratique, je ne savais pas encore transmettre mes pensées, mais je possédais maintenant un savoir que les mots étaient impuissants à exprimer. Je saurais artiser. Et grâce à cette certitude, ma résolution sera fermée. Rien de ce que pourrait m'infliger Galen désormais ne m'empêcherait d'apprendre. Il le savait, je pense, et j'ignore pourquoi cela l'effrayait. Car les jours suivants, il s'en prit à moi avec une férocité qui me paraît aujourd'hui incroyable. Paroles et coups violents pleuvaient, mais rien ne pouvait me détourner de mon but. Une fois, il me cingla le visage avec sa cravache, et le coup me laissa une zébrure visible. Par hasard, Burik se trouvait dans la salle à manger au moment où j'y descendis, et je vis ses yeux s'agrandir. Il se leva de table, les mâchoires crispées, avec une expression que je connaissais bien. Mais je baissai le regard, et il resta un moment debout, à dévisager Galen d'un air assassin, tandis que le maître d'art le considérait avec hauteur. Enfin, les poings serrés, Burik tourna les talons et quitta la salle. Je soufflai, soulagé que la confrontation eût été évitée. Mais à cet instant, Galen me regarda et son expression triomphante me glaça le cœur. J'étais sa créature à présent, et il le savait. Souffrances et victoires se succédèrent la semaine suivante. Galen ne perdait jamais une occasion de me rabaisser, et pourtant, je savais que je brillais à chaque exercice qu'il nous donnait. Je sentais mes condisciples tâtonner pour percevoir le contact de son art, mais pour moi, c'était aussi facile que d'ouvrir les yeux. Je connus cependant un moment d'intense terreur. Galen avait pénétré dans mon esprit et m'avait transmis une phrase à répéter tout haut. « Je suis un bâtard et je déshonore le nom de mon père », dis-je sans broncher. Et soudain il reprit « Tu tires ton énergie de quelque part, bâtard. Cet art n'est pas le tien. Crois-tu que je ne saurais pas en découvrir la source ?» Alors je fléchis et m'écartai de son contact en dissimulant Martel au fond de mon esprit. Le sourire qu'il m'adressa lui découvrit toutes les dents. Les jours suivants, nous nous livrâmes à une partie de cache-cache. J'étais obligé de le laisser pénétrer dans mon esprit pour apprendre l'art, mais alors je devais jongler pour lui sceller mes secrets, non seulement Martel, mais aussi Imbre et le Fou, et Molly, Kerry et Dirk, ainsi que d'autres secrets plus anciens que je refusais de révéler, y compris à moi-même. Il les cherchait tous, et je me démenais comme un beau diable pour les maintenir hors de sa portée. Mais en dépit de son harcèlement, ou peut-être à cause de lui, je me sentais devenir plus fort dans ma maîtrise de l'art. « Ne te moque pas de moi !» me hurla-t-il à la fin d'une séance, et sa fureur redoubla lorsqu'il vit les autres échanger des regards choqués. « Occupez-vous de vos exercices !» rugit-il. Il s'éloigna de moi, puis fit brusquement demi-tour et se jeta sur moi. À coups de poing, à coups de pied, il se mit à me frapper, et comme Molly il y avait bien longtemps, mon seul réflexe fut de me protéger le visage et le ventre. Les orions qu'il faisait pleuvoir sur moi évoquaient plus une colère d'enfant que l'attaque d'un adulte. Je sentis leur manque d'efficacité et compris soudain que j'étais en train de le repousser. Pas au point qu'il le remarque, mais juste assez pour dévier légèrement ses coups. Je sus aussi qu'il ne s'en rendait pas compte. Quand il baissa enfin les poings et que j'osais le regarder, je constatais que j'avais momentanément remporté la victoire. Dans les yeux des autres étudiants se lisait à la fois la désapprobation et la peur. Même pour Seren, Galen avait été trop loin. Blême, il se détourna de moi, et en cet instant je perçus qu'il prenait une décision. Ce soir-là, bien qu'affreusement fatigué, j'étais trop énervé pour dormir. Le fou avait laissé de quoi manger à Martel, et j'excitais le chien avec un gros os de bœuf. Il avait planté l'écrou dans ma manche et la tiraillait pendant que je tenais l'objet de sa convoitise hors de sa portée. C'était le genre de jeu qu'il adorait, et il grondait avec une fin de férocité tout en me secouant le bras. Il avait presque sa taille d'adulte, et je palpais avec fierté les muscles de sa nuque épaisse. De mon autre main, je lui pinçais la queue, et il tourna sur lui-même en grognant pour répondre à cette nouvelle attaque. Puis je me mis à jongler avec l'os, et il essaya, les yeux rivés dessus, de l'attraper en claquant des mâchoires. « Pas de cervelle, » l'asticotai-je. « Tu ne penses qu'à ce qui te fait envie. Pas de cervelle, pas de cervelle. »
« Exactement comme son maître. »
Je sursautai, et Martel en profita pour happer l'os au vol. Il se jeta au sol avec sa proie, en accordant au fou qu'un battement de queue de pure forme. Je m'assis, hors d'haleine. Je n'ai pas entendu la porte s'ouvrir ni se fermer. Le fou ne se perdit pas en vain détour.
« Crois-tu que Galen te permettra de réussir ?»
J'eus un sourire suffisant. « Crois-tu qu'il puisse m'en empêcher ?» Il s'assit à côté de moi avec un soupir.
« J'en suis certain, et lui aussi. Un seul point reste à déterminer. Est-ce qu'il sera assez implacable pour le faire ? J'ai bien l'impression que oui. »«
Eh bien, qu'il essaie, » répondis-je avec désinvolture.
« Ça ne dépend pas de moi. »
Le fou était mortellement grave.
« J'avais espéré te dissuader, toi. » De t'y risquer.
Tu voudrais que j'abandonne, maintenant ? Je n'en croyais pas mes oreilles.
Oui.
Mais pourquoi ? Demandai-je d'une voix tendue.
Parce que...
Il s'interrompit, agacé.
Je ne sais pas. Trop d'éléments convergent. Peut-être que, si j'arrive à détacher un fil, le nœud ne se formera pas.
La fatigue m'envahit soudain. Et l'exaltation née de mon triomphe s'effrita devant ces sinistres mises en garde. L'irritation me gagna, et je dis d'un ton cassant. « Si tu es incapable de t'exprimer clairement, pourquoi parler ?» Il resta silencieux comme si je l'avais frappé. Puis,
« C'est là un autre élément que j'ignore, »
fit-il enfin. Il se leva pour s'en aller. Je l'appelai. « Fou !»
C'est bien ce que je suis. »
Et il sortit. Je persévérai donc et je m'améliorai. La lenteur de la formation me rendait impatient. Tous les jours, nous répétions les mêmes exercices, et peu à peu, les autres commencèrent à maîtriser ce qui me semblait si naturel. Je m'étonnais. Comment pouvait-il être à ce point coupé du reste du monde? Comment pouvait-il avoir tant de mal à s'ouvrir à l'art de Galen? La difficulté pour moi n'était pas de m'ouvrir, mais plutôt de maintenir enfermé ce que je ne voulais pas partager. Souvent, alors qu'il m'effleurait avec l'art, je sentais une vrille indiscrète s'introduire furtivement dans mon esprit, mais je l'esquivais.
« Vous êtes prêts ?»
nous annonça-t-il un jour, où il faisait grand froid. C'était l'après-midi, mais les étoiles les plus brillantes se montraient déjà dans le bleu sombre du ciel. Je regrettais les nuages de neige de la veille qui avaient eu le mérite de nous éviter un froid trop intense. Je fis jouer mes orteils dans les chaussures de cuir que nous autorisait Galen, dans l'espoir de les réchauffer.
« Jusqu'à présent, je vous ai touché avec l'art, afin de vous y habituer. Aujourd'hui, nous allons tenter un contact total. Vous vous projetterez vers moi pendant que je me tendrai vers vous. Cependant, attention. Pour la plupart, vous avez réussi à surmonter la folie du contact de l'art, mais elle n'a fait pour l'instant que vous effleurer. Aujourd'hui, ce sera plus fort. Résistez, mais restez ouvert à l'art. »
Et à nouveau, il se mit à circuler lentement parmi nous. Je me sentais faible, mais sans peur, et je pris patience. J'attendais cette expérience depuis longtemps. J'étais prêt. À l'oreille, je sus que certains avaient échoué, et ils se virent reprocher leur paresse ou leur stupidité. Auguste récolta des éloges, Sereine une gifle, pour s'être projeté avec trop d'empressement. Enfin, il arriva devant moi. Je bandais mes muscles, comme pour un concours de lutte. Son esprit effleura le mien, et je répondis par une pensée curieuse.
« Comme ceci ?»
« Oui, bâtard, comme ceci. » et l'espace d'un instant, nous restâmes en équilibre, tels des enfants sur une bascule. Je le sentis qui affermissait notre contact. Puis, sans crier gare, de toutes ses forces, il précipita son esprit contre le mien. J'eus la même impression que si mes poumons s'étaient vidés sous l'effet d'un choc, mais d'un choc mental plus que physique. Au lieu d'être incapable de reprendre mon souffle, je me trouvais dans l'impossibilité de maîtriser mes pensées. Il se rua dans mon esprit, mit à sac mon intimité, et je restais impuissant. Il avait gagné, et il le savait. Mais son triomphe le rendit imprudent, et je trouvais une ouverture. Je m'agrippais à lui, m'efforçais de m'emparer de son esprit comme il s'était emparé du mien. Je m'accrochais, et ne le lâchais plus. Et en un éclair vertigineux, je sus que j'étais plus fort que lui, que je pouvais lui imposer la pensée de mon choix.
« Non !»
cria-t-il d'une voix suraiguë. Et dans un brouillard, je compris qu'autrefois il avait mené le même combat contre quelqu'un qu'il méprisait, quelqu'un qui l'avait emporté sur lui, comme j'en avais moi-même l'intention.
« Si !» répondis-je.
« Meurs !» m'ordonna-t-il. Mais je savais que je n'obéirais pas. Je savais que j'allais gagner. Je concentrais ma volonté et j'assurais mon emprise. L'art ne se soucie pas de savoir qui sera le gagnant. En sa présence, nul ne doit s'accrocher à la moindre pensée, fût-ce un instant. Je commis cette faute. Et en la commettant, j'oubliais de me garder de cette extase qui est à la fois le miel et le poison de l'art. L'euphorie déferla en moi, me submergea, et Galen y sombrant lui aussi, cessa de piller mon esprit pour tenter de regagner le sien. Je n'avais jamais rien ressenti de pareil. Galen avait parlé de plaisir, et je m'attendais à une sensation agréable, comme la chaleur en hiver, le parfum d'une rose ou un goût sucré au palais. Mais cela n'avait rien à voir. Le plaisir est un terme à connotation trop physique pour décrire ce que j'éprouvais. Il n'y avait là aucun rapport avec la peau ni avec le corps. Cette perception se répandit en moi, m'engloutit comme une vague que j'étais incapable de repousser. L'exaltation m'envahit et se déversa à travers moi. J'oubliais Galen et tout le reste. Je le sentis qui m'échappait et je savais que c'était important, mais je ne parvenais plus à m'y intéresser. J'oubliais tout pour une tâche unique, explorer cette sensation.
« Bâtard !»
cria Galen, et il m'asséna un coup de poing sur le côté du crâne. Je tombais, incapable de me défendre, car la douleur n'avait pas suffi à me tirer de la transe de l'art. Je sentis qu'il me bourrait de coups de pied. Je reconnus le froid des pierres qui me meurtrissaient et m'éraflaient, mais j'avais l'impression d'être maintenu sous une couverture d'euphorie, qui engourdissait mes sens et m'interdisait de prêter attention à la correction que je subissais. Mon esprit m'assurait, malgré la douleur, que tout allait bien, qu'il n'était pas nécessaire de me battre ni de me sauver. Quelque part, une vague se retira, me laissant échouer. Oh, que temps ! Galen se dressait au-dessus de moi, en sueur, les vêtements chiffonnés. Son haleine fumait dans l'air glacé quand il se pencha sur moi.
« Meurs !» dit-il.
Mais je n'entendis pas le mot. Je le ressentis. Il me lâcha la gorge, et je m'écroulai. Et dans le sillage du ravissement dévorant de l'art, survint un déchirant sentiment d'échec, et de culpabilité à côté duquel la souffrance physique n'était rien. Je saignais du nez, j'avais du mal à respirer, et sous la force des coups de pied de Galen, je m'étais arraché la peau sur le dallage de la tour. Les diverses douleurs qui m'assaillaient se contredisaient tant, elles tiraillaient mon attention dans tant de directions à la fois que j'étais incapable d'évaluer la gravité de mes blessures. Je n'arrivais même pas à me redresser. Mais une certitude me dominait de toute sa hauteur, m'écrasait de toute sa masse, celle d'avoir échoué. J'étais vaincu, j'étais indigne, et Galen l'avait prouvé. Comme de très loin, je l'entendis crier aux autres de prendre garde, car c'était ainsi il traiterait ceux dont le manque de discipline les livrerait pieds et poings liés au plaisir de l'art. Et il les avertit de ce qui attendait l'homme qui s'essayait à l'art,
et succombait à ses sortilèges. Il finissait décervelé, nourrisson dans un corps d'adulte, muet, aveugle, faisant sous lui, oublieux de la pensée, oublieux même du manger et du boire, jusqu'à se laisser mourir.
Un tel individu passait les bornes même du mépris. Et j'étais de cette engeance. Je me noyais dans ma honte. Je me mis à sangloter. Je méritais le traitement que Galen m'avait infligé, et je méritais pire encore. Seule une pitié mal placée l'avait empêché de me tuer. Je lui avais fait perdre son temps. J'avais utilisé son enseignement, si soigneusement dispensé, à des fins complaisamment égoïstes. Je me fuyais moi-même et m'enfonçais toujours davantage, mais je ne découvrais en moi que haine et dégoût envers ma personne. Mieux valait la mort. Me précipiter du haut de la tour ne serait encore pas suffisant pour détruire ma honte, mais au moins, je n'en aurais plus conscience. Je restais tapis et pleurais à chaudes larmes. Les autres commencèrent à s'en aller. Au passage, chacun me décochait une insulte, un crachat ou un coup, mais c'est à peine si je m'en rendais compte. L'écœurement que je m'inspirais à moi-même dépassait incommensurablement le leur. Enfin, seul demeura Galen, debout à côté de moi. Il me poussa du bout de sa botte, mais j'étais incapable de réagir. Soudain, il fut partout. Au-dessus, en dessous, autour et à l'intérieur de moi, et je ne pouvais le repousser. « Tu vois, bâtard, » me dit-il calmement, un sourire mauvais aux lèvres. « J'avais essayé de les prévenir que tu n'étais pas digne, que l'apprentissage te tuerait, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Tu as tenté de t'approprier ce qui avait été donné à un autre, et, encore une fois, j'avais raison. Bah, je n'aurais pas perdu mon temps. » « Si cela me vaut d'être débarrassé de toi !»
J'ignore quand il partit. Au bout d'un certain temps, je pris conscience que c'était la lune, et non plus Galen, qui se trouvait au-dessus de moi. Je roulais sur le ventre. Incapable de me mettre debout, je parvins à ramper, lentement, sans même me soulever complètement. Je me traînais sur les pierres. L'esprit ancré sur une seule idée, je me mis en route vers le mur bas. J'avais l'intention de me hisser sur un banc, et de là, sur le sommet du mur. Ensuite, la chute. Et rideau. Ce fut un long trajet dans le noir et le froid. Quelque part, j'entendais des gémissements, et pour cela aussi je me méprisais. Mais tandis que j'avançais au ras du dallage, ils s'intensifièrent, comme l'étincelle au loin devient un feu quand on s'approche. Insistant, ils devinrent plus forts dans mon esprit, s'opposant à mon sort, petite voix de résistance qui refusait que je meure, qui niait mon échec. Ils étaient chaleur et lumière aussi, et ils grandissaient à mesure que j'en cherchais la source. Je cessais de ramper. Je ne bougeais plus. C'était en moi. Plus je fouillais, plus la source devenait puissante. Elle m'aimait même si j'en étais incapable moi-même, même si je ne le voulais pas. Elle m'aimait même si je l'en détestais. Elle planta ses petits crocs dans mon âme, se raidit et m'empêcha d'avancer. Et quand je voulus passer outre, un hurlement de désespoir en jaillit, qui me traversa comme un trait de feu, m'interdisant de trahir une confiance si sacrée. C'était Martel. Il pleurait à l'unisson de mes souffrances physiques et mentales, et lorsque je cessais de chercher à me rapprocher de l'enceinte, il explosa dans un paroxysme de bonheur et de victoire pour nous deux. Je ne pus rien faire d'autre pour le récompenser que ne plus bouger, ne plus essayer de me détruire, et il m'assura que c'était assez, que c'était une plénitude, que c'était une joie. Je fermai les yeux. La lune était haute quand Burick me retourna doucement sur le dos. Le fou avait une torche à la main et Martel dansait en cabriolant à ses pieds. Burick passa ses bras sous mon corps et me souleva comme si j'étais encore un enfant qu'on venait de lui confier. J'entraperçus son visage sombre, mais n'y reconnus aucune expression déchiffrable. Il me porta jusqu'en bas du long escalier de pierre, suivi du fou qui lui éclairait le chemin. Il sortit de la forteresse
traversa les écuries et me monta dans ses quartiers. Là, le fou nous quitta, Burick, Martel et moi, sans qu'un mot eût été prononcé, autant que je me souvienne. Burick me déposa sur son lit avant de le tirer près du feu, et avec la chaleur me vint une grande douleur. Je remis mon corps à Burick, mon âme à Martel, et je perdis connaissance pendant un long moment. Quand je rouvris les yeux, c'était la nuit. Laquelle ? Je l'ignorais. Burick était toujours assis près de moi, l'œil vif, même pas affaissé dans son fauteuil. Je sentis la compression d'un bandage sur mes côtes. Je levai une main pour le toucher et me découvris avec surprise deux doigts éclissés. Burick avait suivi mon geste des yeux.
Ils étaient enflés, et ce n'était pas seulement le froid. Trop pour que je me rende compte s'ils étaient fracturés ou simplement foulés. Je leur ai mis une attelle au cas où, mais à mon avis, ce n'est qu'une foulure. S'ils avaient été cassés, la douleur t'aurait réveillé quand j'ai travaillé dessus. »
Il s'exprimait calmement, comme s'il me racontait qu'il venait de purger un nouveau chien contre les vers pour éviter la contagion. Et de même que son débit irrégulier et son contact assuré avaient plus d'une fois apaisé un animal affolé, ils m'apaisèrent à mon tour. Je me détendis, convaincu que s'il gardait son calme, la situation ne devait pas être bien grave. Il glissa un doigt sous le bandage qui me maintenait les côtes pour en vérifier la tension.
« Qu'est-ce qui s'est passé ?»
me demanda-t-il, tout en se tournant pour attraper une tasse de thé, comme si sa question et ma réponse n'avaient guère d'importance. Je passai en revue les dernières semaines en cherchant un moyen de m'expliquer. Les événements dansaient dans ma tête, me glissaient entre les doigts. Seul demeurait le souvenir de la défaite. « Galen m'a mis à l'épreuve, » dis-je enfin, d'une voix lente. « J'ai échoué. Et il m'a puni. » Et à ces mots, un mascaret d'abattement, de honte et de culpabilité déferla sur moi et balaya le bref réconfort que j'avais eu à retrouver un environnement familier. Près de l'âtre, Martel s'éveilla brusquement et se redressa. Sans réfléchir, je l'apaisai avant qu'il ne se mette à gémir.
« Couché, rendors-toi, tout va bien. »
À mon grand soulagement, il obéit. Et à mon soulagement plus grand encore, Burick parut ne pas s'être rendu compte de notre échange. Il me tendit la tasse.
« Tiens, bois ça. Tu as besoin d'eau, et les herbes engourdiront la douleur et te feront dormir. Allez, bois tout. »
« Ça sent mauvais. »
protestai-je. Il acquiesça et me tint la tasse autour de laquelle mes mains meurtries ne pouvaient se refermer. Je bus tout le contenu, puis me rallongeai.
« C'était tout ? »
demanda-t-il d'un ton circonspect, et je sus de quoi il parlait.
« Il t'a fait passer un examen sur un sujet qu'il t'avait appris, et tu n'as pas su répondre, et du coup, il t'a mis dans cet état. »
Je n'ai pas réussi. Je n'avais pas l'autodiscipline qu'il fallait. Alors, il m'a puni.
Les détails m'échappaient. La honte me submergeait et je me noyais dans mon malheur.
On n'enseigne pas l'autodiscipline en battant les gens à mort.
Burick détachait soigneusement ses mots, comme s'il s'adressait à un idiot. Avec des gestes très précis, il reposa la tasse sur la table. Ce n'était pas pour m'instruire. Il me croit incapable d'apprendre, je pense. C'était pour montrer aux autres ce qui les attendait s'ils échouaient.
« On n'enseigne pas grand-chose de valable par la peur, » affirma Burick, têtu. Puis, plus cordialement, « C'est un bien piètre professeur qui essaie d'enseigner par la violence et les menaces. Imagine qu'on veuille dresser un cheval comme ça, ou un chien. » Le plus cabochard des chiens apprend mieux d'une main ouverte que d'un bâton.
Pourtant, tu m'as bien frappé, toi, quand tu essayais de m'apprendre certaines choses.
Oui, c'est vrai. Mais c'était pour te secouer, te mettre en garde ou te réveiller. Pas pour te faire du mal. Jamais pour casser un membre, crever un œil, ni rendre une main inutilisable. Jamais. Ne raconte jamais que je t'ai frappé. Toi, ni aucune créature dont je m'occupe. De cette façon, parce que c'est faux. »
Il était outré que je puisse seulement insinuer une telle idée.
« Non, tu as raison. »
Je cherchais un moyen de lui expliquer les causes de ma punition.
Mais là, ce n'était pas pareil, Burick. Le sujet à enseigner était différent et par conséquent, l'enseignement aussi.
Je me sentais obligé de défendre la justice de Galen. Je le méritais, Burick. Ce n'était pas sa façon de nous instruire qui était en faute. C'est moi qui n'avais pas su apprendre.
J'ai essayé, j'ai fait des efforts, mais, comme Galen nous l'a dit, je crois qu'il y a une bonne raison pour ne pas former les bâtards à l'art. J'ai une tare, un défaut rédhibitoire.
Tu parles?
Si. Réfléchis, Burick. Si tu fais saillir une jument de race inférieure par un étalon de pure race, le poulain aura autant de chances d'hériter des faiblesses de la mère que des qualités du père.
Un long silence s'ensuivit. Puis,
ça m'étonnerait beaucoup que ton père ait partagé la couche d'une femme inférieure, comme tu dis. Si elle n'avait aucun raffinement, aucun esprit, ni aucune intelligence, ton père s'y serait refusé. Il n'aurait pas pu.
On raconte qu'il aurait été enchanté par une sorcière des montagnes.
C'était la première fois que je rapportais une histoire que j'avais souvent entendue.
Chevalerie n'était pas homme à se laisser prendre à ce genre de magicaillerie. Et son fils n'est pas un imbécile, pleurnichard, qui se traîne par terre en gémissant qu'il mérite de se faire rouer de coups.
Il se pencha vers moi, et du bout du doigt appuya doucement, juste en dessous de ma tempe. Une explosion de douleur fit vaciller ma conscience.
Tu vois, il s'en est fallu d'un cheveu que son enseignement te fasse perdre un œil.
Il s'échauffait, et je jugeais préférable de tenir ma langue. D'un pas vif, il fit le tour de la pièce, puis il pivota soudain face à moi.
Le chien. Il est de la chienne de patience, n'est-ce pas?
Oui.
Mais tu n'as pas... Oh, Fitz, dis-moi que tu n'as pas récolté ça parce que tu t'es servi du vif. Sinon... je n'oserai plus jamais adresser la parole à quiconque, ni soutenir le regard de personne dans la forteresse, ni dans tout le royaume.
Non, Burick, je te le promets. Ça n'avait rien à voir avec le chien. C'est seulement que je n'ai pas su apprendre ce qu'on m'enseignait. C'est ma tare.
Tais-toi !
M'ordonna-t-il d'un ton impatient.
Ta parole me suffit. Je te connais assez pour savoir que tu la tiendras toujours. Mais pour le reste, tu racontes n'importe quoi. Allez. « Rendors-toi. Je dois sortir, mais je serai bientôt revenu. Repose-toi, c'est la meilleure façon de se soigner. »
Burick avait pris un air résolu. Mes discours semblaient l'avoir enfin convaincu, avoir tranché une question. Rapidement, il enfila des bottes, changea sa chemise pour une plus ample sur laquelle il ne passa qu'un pourpoint de cuir. Martel s'était levé et poussait des gémissements inquiets quand Burick sortit. Mais il ne parvint pas à me transmettre la raison de son angoisse. Alors, il s'approcha de mon lit, grimpa dessus et s'enfonça sous les couvertures pour se coller contre moi et me réchauffer le cœur de sa confiance. Dans l'humeur de noir désespoir qui était la mienne, il était la seule lumière qui brilla. Je fermai les yeux et les herbes de Burick m'entraînèrent dans un sommeil sans rêve. Je me réveillai dans l'après-midi. Une bouffée d'air froid précéda l'entrée de Burick. Il vérifia mon état général, m'écarquilla négligemment les yeux et palpa d'une main compétente mes côtes et mes autres blessures. Enfin, il poussa un grognement de satisfaction, puis enfila une chemise propre à la place de l'autre, terreuse et déchirée. Il n'avait pas cessé de fredonner, apparemment d'une belle humeur qui contrastait fort avec mes souffrances, tant physiques que morales. Et ce fut presque avec soulagement que je le vis s'en aller. À travers le plancher, je l'entendis siffloter et crier des ordres aux garçons d'écurie, et soudain ces bruits si familiers et si ordinaires déclenchèrent en moi une nostalgie dont la violence m'étonna. Je voulais tout retrouver, l'odeur chaude des chevaux,
des chiens et de la paille, les travaux simples, faits avec soin et à fond, et le bon sommeil que procure la fatigue d'une journée bien remplie. Je mourais d'envie de m'y replonger, mais l'indignité dans laquelle je me roulais me disait que même à cette vie-là, j'échouerais.
Galen se gossait souvent de ceux qui effectuaient ces tâches humbles dans la forteresse. Il n'avait que mépris pour les filles de salle et les cuisinières, dérision pour les garçons d'écurie et, selon ses propres termes, les hommes d'armes qui nous protégeaient de l'arc et de l'épée n'étaient que des ruffians et des rustres condamnés à repousser le monde en agitant les bras comme des ailes de moulin et à mater avec une épée ce qu'ils ne peuvent dominer avec l'esprit. Aussi me trouvais-je aujourd'hui étrangement écartelé. Je rêvais de retourner à une existence que Galen décrivait comme méprisable, mais en même temps, je doutais, désespéré, d'en être encore capable. Je gardais le lit 2 jours. Burick me soigna pendant ce temps avec une humeur taquine et enjouée, à laquelle je ne comprenais rien. Il se déplaçait d'un pas vif, avec des gestes assurés, qui le rajeunissaient extraordinairement. Que mes blessures le mettent tellement en joie ne faisait qu'ajouter à mon abattement. Mais au bout de 2 jours d'alitement, Burick m'annonça que rester trop longtemps sans bouger nuisait à son homme, et qu'il était temps de me lever si je voulais guérir convenablement, et de me trouver aussitôt toutes sortes de petits travaux à effectuer, dont aucun ne m'obligeait à puiser dans mes forces, mais en nombre suffisant pour m'occuper, car je devais me reposer fréquemment. Je crois que c'était l'occupation qu'il recherchait pour moi, davantage que l'exercice, car il avait bien vu qu'au lit, je ne faisais que rester le nez au mur, vautré dans mon mépris de moi-même. Face à mon humeur tenacement dépressive, Martel lui-même commençait à se détourner de son assiette. Pourtant, en lui seul, je trouvais une vraie source de réconfort. Me suivre dans les écuries constituait pour lui la plus grande joie de son existence. Il me transmettait tout ce qu'il flairait, tout ce qu'il voyait avec une intensité qui, malgré ma morosité, réactivait en moi l'émerveillement que j'avais connu en pénétrant pour la première fois dans le monde de Burick. Violemment possessif, le chien allait jusqu'à daigner à Sui le droit de me renifler, et s'attira de la part de Renard un claquement de mâchoire qui le fit revenir dardard entre mes jambes, glapissant et la queue basse. J'obtins d'avoir le lendemain libre pour me rendre à Bourg-de-Castelserre. Le trajet me prit plus de temps que jamais auparavant, mais Martel apprécia la lenteur de mon allure qui lui permettait d'aller fourrer son museau sur chaque touffe d'herbe et contre chaque arbre du chemin. Je pensais que voir Molly me remonterait le moral et m'aiderait à redonner un peu de sens à ma vie. Mais quand j'arrivais à la chandellerie, elle était occupée à remplir 3 grosses commandes pour des navires en partance, et en attendant, je m'installais près de l'âtre de la boutique. Son père, assis en face de moi, buvait en me lançant des regards furibonds. Son penchant l'avait affaibli, mais n'avait pas modifié son tempérament, et les jours où il était assez en forme pour se tenir droit sur une chaise, il était assez en forme pour boire aussi. Au bout d'un moment, je renonçais à tout semblant de conversation, et restais simplement à le regarder s'enivrer, et à l'écouter débiner sa fille, tandis que Molly courait çà et là, comme une affolée, s'efforçant d'être à la fois efficace et accueillante avec les clients. La tristesse et la médiocrité de cet aperçu de leur existence ne firent que renforcer mon abattement. À midi, elle avertit son père qu'elle fermait la boutique pour aller livrer une commande. Elle me confia un portant de chandelle, se chargea elle-même les bras, et nous sortîmes en refermant le loquet derrière nous, sans prêter l'oreille aux imprécations de son père. Une fois dans la brise piquante de la rue, j'accompagnai Molly à l'arrière de la maison. Elle me fit signe de ne pas faire de bruit, ouvrit la porte de derrière et déposa tout son chargement à l'intérieur, y compris mon portant de chandelle. Après quoi, nous nous mîmes en route. Nous nous contentâmes tout d'abord de nous promener dans la ville en échangeant quelques menus propos. Elle m'interrogea sur mon visage contusionné et je lui répondis que j'avais fait une chute. Au marché, le vent froid qui soufflait sans désemparer vidait les étals de leurs vendeurs comme de leurs clients. Molly s'intéressa vivement à Martel, qui se délecta de ses attentions. Sur le chemin du retour, nous fîmes halte dans une échoppe de thé. Elle m'offrit du vin chaud et prodigua tant de caresses à Martel qu'il finit par se mettre sur le dos, en ne songeant plus qu'à se rouler dans son affection. Une idée me frappa soudain. Martel percevait très clairement les sentiments de Molly, alors que l'inverse n'était pas vrai, sinon à un niveau très superficiel. Je tendis délicatement mon esprit vers celui de ma compagne, mais la trouvai fuyante et vague, comme un parfum dont la fragrance croît et s'affaiblit dans la même bouffée d'air. Certes, j'aurais pu chercher plus profondément, mais je n'en vis pas l'utilité. Une sensation de solitude s'était abattue sur moi. L'impression mélancolique et accablante que Molly n'avait jamais été et ne serait jamais plus consciente de mes sentiments que de ceux de Martel. Aussi attrapai-je au vol les mots brefs qu'elle m'adressait, comme un oiseau picore des miettes de pain, sans chercher à écarter les rideaux de silence qu'elle glissait entre nous. Elle m'annonça bientôt qu'elle ne devait plus tarder à rentrer, sous peine d'aggraver son cas, car si son père n'avait plus la force de la battre, il demeurait néanmoins capable de briser sa chope de bière par terre ou de renverser des étagères pour manifester son mécontentement de se voir négligé. En me disant cela, elle avait un curieux petit sourire qui semblait signifier que, si nous trouvions le comportement de son père amusant, sa situation perdrait de son horreur. Je fus incapable de lui rendre son sourire, et elle détourna les yeux. Je l'aidai à remettre son manteau et nous repartîmes vers la ville haute, face au vent, et je vis soudain dans cette lutte contre la pente et les éléments une métaphore de ma propre vie. À la porte de la boutique, Molly, à ma grande surprise, me serra dans ses bras et me déposa un baiser à l'angle de la mâchoire. Son étreinte avait été si brève que j'aurais pu croire m'être heurté à quelqu'un dans un marché. « Le nouveau, » dit-elle, puis « Merci pour ta compréhension. » Sur quoi, elle se faufila dans les shops en refermant la porte derrière elle, et je me retrouvai tout seul et abasourdi. Elle me remerciait de ma compréhension, alors que jamais je ne m'étais senti plus coupé d'elle et de tout le monde. Tout le long du chemin jusqu'à la forteresse, Martel babilla sur les odeurs qu'il avait flairées sur elle, sur sa façon de le gratter devant les oreilles, juste en ce point qu'il ne pouvait atteindre lui-même, et sur les adorables biscuits qu'elle lui avait donnés à la boutique de thé. C'était le milieu de l'après-midi quand nous revînmes aux écuries. J'effectuai quelques corvées, puis je remontai dans la chambre de Burick où nous nous endormîmes, le chien et moi. À mon réveil, je découvris Burick debout près de moi, les sourcils légèrement froncés. « Lève-toi, que je jette un coup d'œil sur toi, » m'ordonna-t-il. J'obéis avec des mouvements las et me tins immobile pendant qu'il tâtait adroitement mes blessures. Satisfait de l'état de ma main, il m'annonça que le pansement était désormais inutile, mais que je devais conserver le bandage autour de mes côtes et venir tous les matins chez lui me le faire ajuster. Pour les autres blessures, garde-les propres et sèches et n'arrache pas les croûtes. S'il y en a une qui s'infecte, viens me trouver. Il remplit un petit pot d'un onguent contre les douleurs musculaires et me le donna, ce dont je déduisis qu'il s'attendait à me voir partir. Mais je ne bougeais pas, mon petit pot de pommade à la main. Une terrible tristesse s'enflait en moi, mais les mots me manquaient pour l'exprimer. Burick me dévisagea, fronça les sourcils et se détourna. « Arrête de faire ça !» me dit-il d'un ton irrité.
« Quoi ?»«
Parfois, tu me regardes avec les yeux de mon seigneur, » répondit-il calmement. Puis, avec une sécheresse renouvelée, « Alors, qu'est-ce que tu comptais faire? Te planquer dans les écuries pour le restant de tes jours? Non, tu dois faire front. Faire front, relever le menton, prendre tes repas au milieu des gens de la forteresse, dormir dans ta chambre à toi et vivre ta propre vie, et aussi terminer ton fichu apprentissage de l'art. » Si ces premiers ordres m'avaient paru difficiles à mettre en pratique, ce dernier était quant à lui impossible à exécuter, c'était évident.
« Je ne peux pas !»
dis-je, incrédule devant tant de stupidité.
Galen ne me laisserait jamais réintégrer le groupe, et même s'il m'acceptait, je n'arriverais pas à rattraper les leçons perdues. J'ai échoué, Burick. J'ai échoué. Il n'y a pas à revenir dessus. Maintenant, il faut que je trouve à m'occuper. J'aimerais bien apprendre la fauconnerie, s'il te plaît. »
Je m'entendis prononcer cette phrase avec stupéfaction, car en vérité, Cette idée ne m'avait jamais effleuré. La réponse de Burick me parut tout aussi étrange.
« N'y compte pas. Les faucons ne t'aiment pas. Tu as le tempérament trop bouillant et tu te mêles trop des affaires des autres. Écoute-moi plutôt. Tu n'as pas échoué, imbécile que tu es. Galen a simplement essayé de te virer. Si tu n'y retournes pas, il aura gagné. Tu dois y retourner et tu dois apprendre l'art. Mais... »
Et il planta ses yeux dans les miens avec une expression de colère.
« Tu n'es pas obligé de supporter ses coups comme la mule d'un charretier. Par ta naissance, tu as droit à son temps et à son savoir. Force-le à te donner ce qui t'est dû. Ne t'enfuis pas. » Personne n'a jamais rien gagné dans la fuite.
Il se tut, s'apprêta à rajouter quelque chose, puis se ravisa.
« J'ai manqué trop de leçons. Je ne pourrai jamais. »
« Tu n'as rien manqué du tout. »
affirma-t-il d'un air buté. Il se détourna de moi, et ce fut d'un ton monocorde qu'il reprit.
« Il n'y a pas eu de leçon depuis ton départ. Tu devrais pouvoir reprendre l'apprentissage là où tu l'as laissé. »«
Je ne veux pas m'y remettre. » »«
Ne me fais pas perdre mon temps en discutant, » fit-il sèchement. « Ne me pousse pas à bout. Je t'ai dit quoi faire. Fais-le. »
Soudain, j'eus de nouveau 6 ans, et un homme subjuguait une foule d'un seul regard. Je frissonnais, soumis. Et tout à coup, il me parut plus facile d'affronter Galen que de défier Burick, même lorsqu'il ajouta
« Et tu vas me laisser ce chien jusqu'à la fin de ton apprentissage. Rester enfermé toute la journée dans une chambre, ce n'est pas une vie pour un animal. Son poil va s'abîmer et il ne va pas se muscler comme il faut. Mais veille à descendre ici tous les soirs pour t'occuper de lui et de lui, ou tu auras affaire à moi. Et Galen peut bien en dire ce qu'il veut, je m'en fous. »
Et il me congédia. J'informai Martel qu'il devait rester avec Burick, ce qu'il accepta avec une placidité qui m'étonna autant qu'elle me vexa. Abattu, je pris mon pot d'engan et remontai d'un pas lourd jusqu'à la forteresse. Je récupérai de quoi manger aux cuisines, car je n'avais pas le courage d'affronter quiconque à table, et regagnai ma chambre. Il y faisait froid et noir. Il n'y avait pas de feu dans la cheminée, pas de chandelle dans les bougeoirs, et les roseaux répandus par terre sentaient le moisi. J'allai chercher des bougies et du bois, allumai une flambée, puis, en attendant qu'elle réchauffe un peu la pierre du sol et des murs, je me débarrassai des roseaux. Ensuite, comme Brodette me l'avait conseillé, je récurai la pièce à fond avec de l'eau chaude et du vinaigre. Par hasard, j'avais pris du vinaigre à l'estragon, si bien qu'à la fin de mon nettoyage, l'odeur de cette herbe imprégnait toute la chambre. Enfin, épuisé, je me jetai sur mon lit et m'endormis en me demandant pourquoi je n'avais jamais découvert comment ouvrir la porte qui menait aux appartements d'Imbre. Mais, dans le cas contraire, il m'en aurait sans doute refusé l'entrée, car c'était un homme de parole, et il ne voulait pas avoir affaire à moi avant que Galen en ait fini avec moi. Ou avant de découvrir que j'en avais fini avec Galen. Je me réveillai à la lumière des bougies que portait le fou. J'ignorais l'heure qu'il était et où je me trouvais jusqu'à ce qu'il déclare.
« Tu as juste le temps de faire ta toilette et de manger pour être le premier sur la tour. »
Il avait apporté de l'eau chaude dans un broc et des petits pains tout droit sortis des fours des cuisines. Je n'irai pas. Pour la première fois depuis que je le connaissais, le fou eut l'air surpris.
« Pourquoi ?»«
C'est inutile. Je n'arriverai à rien. Je n'ai absolument aucun talent. » Et j'en ai assez de me taper la tête contre les murs. Les yeux du fou s'écarquillèrent encore.
« Il me semblait pourtant que tu te débrouillais bien. »
Ce fut mon tour d'être surpris.
« Bien ? Pourquoi est-ce que tu crois qu'il se moque de moi et qu'il me frappe ? Pour me récompenser de mes brillantes performances ? Non, je n'ai même pas été fichu de comprendre comment on s'y prend. Tous les autres m'ont déjà surpassé. À quoi bon m'accrocher ? Pour que Galen démontre encore plus clairement qu'il avait raison ?
Il y a quelque chose qui cloche là-dedans,
dit le fou d'une voix lente. Il réfléchit un instant.
Autrefois, je t'ai demandé de laisser tomber ton apprentissage. Tu as refusé. Tu t'en souviens ?
Je m'en souvenais. Je peux être têtu quelquefois, avouai-je.
Et si je te demandais aujourd'hui de le continuer ? de remonter sur la tour et de persévérer.
Pourquoi as-tu changé d'avis?
Parce que ce que je cherchais à empêcher s'est quand même produit, mais que tu y as survécu. Du coup, j'essaie à présent de...
Sa voix mourut.
C'est comme tu me l'as dit. Pourquoi parler si je suis incapable de m'exprimer clairement?
Si j'ai dit ça, je le regrette. Ce n'est pas une phrase à sortir à un ami. Mais je ne m'en souviens pas.
Il eut un vague sourire.
Si tu ne t'en souviens pas, moi non plus.
Il prit mes deux mains entre les siennes. Il avait la peau étrangement fraîche, et un frisson me parcourut à ce contact.
Accepterais-tu de continuer si je te le demandais? Comme un ami?
Ce dernier mot sonnait bizarrement dans sa bouche. Il n'y avait mis nulle moquerie, et l'avait au contraire prononcé avec soin, comme si le dire tout haut risquait de lui faire perdre son sens. Ses yeux incolores étaient rivés aux miens. Je m'aperçus que j'étais incapable de refuser, et j'acquiesçais. Néanmoins, je me levai avec réticence. Le fou m'observa, impassible, tandis que je réajustais les vêtements dans lesquels j'avais dormi, me passais de l'eau sur le visage, puis m'intéressais à mon petit déjeuner. « Je n'ai pas envie d'y aller, » lui dis-je en finissant le premier petit pain et en attaquant le second. « Je ne vois pas où ça va me mener. »
« Je me demande pourquoi il se casse la tête avec toi, »
fit le fou, son cynisme habituel retrouvé.
« Galen, il y est bien obligé, le roi lui a... »«
Non, Uric !»«
Ça l'amuse de me donner des ordres, c'est tout. » fis-je d'un ton plaintif qui, même à mes oreilles, évoquait un gosse pleurnichard. Le fou secoua la tête.
« Tu n'es pas au courant, hein ?»«
De quoi ?»«
De la façon dont le maître des écuries a sorti de force Galen de son lit et dont il l'a traîné jusqu'aux pierres témoins. » »«
Je n'y étais pas, naturellement, sinon je te raconterais que Galen s'est débattu en sacrant et en tempêtant. »
Ce qui ne faisait ni chaud ni froid au maître des écuries. En réalité, il faisait le dos rond, tout simplement, sans répondre. Uric tenait le maître d'art par le col, si bien que l'autre était au bord de l'étouffement, et il le tirait à travers le château. Et les soldats, les gardes et les garçons d'écurie les suivaient en un flot qui se transformait peu à peu en véritable torrent. Si j'avais été présent... Je pourrais te dire que nul n'a osé s'interposer, car tous avaient l'impression que le maître des écuries était redevenu le Uric d'autrefois, un homme aux muscles de fer, avec un tempérament noir, qui était comme une folie quand il prenait le dessus. À l'époque, personne ne se risquait à contrarier un tel caractère. Et ce jour-là, on aurait dit que Uric était redevenu cet homme. S'il boitait encore, nul ne s'en est aperçu. Quant au maître d'art, au début, il jurait en frappant des pieds et des poings, mais ensuite, il s'est calmé, et tous ont pensé qu'il rassemblait son savoir secret contre son ravisseur. Mais, si c'était le cas, le seul effet visible en a été que le maître d'écurie a resserré sa prise sur sa gorge. Et si Galen a essayé d'inciter des spectateurs à prendre sa défense, ils n'ont pas réagi. Peut-être que se faire étrangler, en même temps que remorquer, avait suffi à troubler sa concentration, à moins que l'art ne soit moins puissant que la rumeur ne le prétend. Ou bien trop nombreux étaient ceux qui gardaient le souvenir de ces mauvais traitements pour être sensibles à ces artifices, à moins encore que...
Accouche-fou ! Que s'est-il passé après ?
Baigné d'une file pellicule de sueur, je frissonnais sans trop savoir ce que j'espérais entendre.
« Je n'étais pas là, naturellement, » répéta le fou d'un ton suave. « Mais j'ai entendu dire... que le ténébreux a traîné le maigrichon jusqu'au pied des pierres témoins. Et là, sans lâcher le maître d'art, de façon à lui couper le sifflet, il a énoncé son défi. Ils allaient se battre, sans armes, à main nue, tout comme le maître d'art s'en était pris à un certain jeune homme la veille. et les pierres attesteraient, si Burick l'emportait, que Galen n'avait aucune raison de frapper le garçon et qu'il n'avait pas le droit de lui refuser son enseignement. Galen aurait volontiers rejeté le défi et serait allé trouver le roi lui-même. Malheureusement, le ténébreux avait déjà pris les pierres à témoin. Ils ont donc engagé le combat, un combat qui n'était pas sans rappeler la façon dont un taureau lutte contre une botte de paille, la jette en l'air, la piétine et l'encorne. Quand il en a eu fini, le maître d'écurie s'est penché pour murmurer quelque chose à l'oreille du maître d'art, avant de s'en retourner au château, en compagnie de la foule, en laissant l'autre allongé par terre, tout sanguinolent, devant les pierres, qu'il l'écoutait gémir.
« Qu'est-ce qu'il lui avait dit ? » demandai-je haletant.
« Oh, mais je n'y étais pas. Je n'ai rien vu ni entendu. »
Le fou se leva en s'étirant.
« Tu vas finir par être en retard !»
me prévint-il avant de s'en aller. Des questions plein la tête, je sortis à mon tour, gravis le long escalier qui menait au jardin dévasté de la reine et arrivai le premier au sommet.